Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Et aujourd'hui, Curiosité, ce sont deux contenus d'information locale pour le prix d'un. On commence avec un reportage réalisé par Emma, volontaire en service civique, direction de l'hôtel Pasteur à Rennes qui accueille jusqu'au samedi 23 novembre la broderie de la Conquête. C'est le point d'aboutissement d'une aventure théâtrale et textile menée depuis 2017 par la compagnie Sentimental Fool. Et il reste une visite guidée pour mieux le comprendre, ce projet. Ça, c'est samedi prochain, donc le 23 novembre à 16h. Pour plus d'infos, il y a toujours le site sentimentalfool.com.
Et donc, elle mène une vie fantomatique. Et puis un jour, dans son miroir, il y a un éblouissement, une lumière qui apparaît. Et elle regarde par la fenêtre et elle voit un chevalier passer dans les champs. Or, elle n'avait pas le droit de regarder par la fenêtre, Hélène Vascola. Elle était maudite à devoir tout le temps broder les reflets qui passaient dans son miroir. Et donc, au moment où elle regarde ce chevalier à l'extérieur, la malédiction se déclenche et elle essaie de fuir de son île.
I'm forgetting your face as the rain wipes down the makeup.
Je suis Inès Cassignol de la compagnie Sentimental Fool qui est basée à Rennes depuis 2017-2018. Et cette compagnie, elle est dédiée à voilà, cultiver le désir de conter, raconter des histoires. Donc, on travaille sur le récit et souvent en l'associant à d'autres langages artistiques, comme ici la broderie.
En quoi consiste le projet que vous avez monté ?
Alors, c'est un projet au long cours qui a eu plusieurs visages. Mais c'est un travail entre oralité, récit et broderie qui s'articule principalement autour de la création d'un spectacle qui s'appelle Vierge Maudite. Et là, on expose à l'Hôtel Pasteur cette semaine deux grandes broderies qui sont associées au spectacle. Le spectacle, le récit qu'on travaille, vient de la matière arthurienne, des légendes arthuriennes. Donc c'est l'histoire d'Hélène d'Astola ou de The Lady of Shalott. Il y a plusieurs versions de son histoire. C'est une vierge brodeuse ou tisseuse qui meurt tragiquement d'amour alors qu'elle essaie de s'échapper de la tour où elle est enfermée. Donc voilà, on a travaillé à partir de ce motif-là dans l'idée de réécrire la légende pour régénérer l'héroïne. Voilà, donc ça c'est le cœur de l'histoire et donc ça s'articule entre des confections textiles qui racontent l'histoire et un spectacle qui raconte l'histoire. Et comment j'ai rencontré la broderie ? Moi c'est un héritage familial puisque ma grand-mère brodait beaucoup, enfin mes deux grand-mères brodaient et une en particulier et dont certaines broderies sont aussi présentes dans l'exposition. Et puis en travaillant sur l'écriture de ce spectacle, j'ai rencontré une brodeuse qui s'appelle Muriel Frey et qui m'a aussi beaucoup... c'est un peu grâce à elle qu'on s'est lancé dans ces projets de création collective de grande ampleur.
Donc le féminisme, ou du moins la sororité et le discours féminin sont au cœur du projet puisque vous avez fait appel à 90 brodeuses.
En fait, cette légende arthurienne, il est question de se poser la question de comment hériter de cette histoire qui vient quand même d'un imaginaire patriarcal, qui met beaucoup plus en avant des héros masculins, virils, au sein de quêtes. Bon, évidemment, il y a plein de personnages féminins et ils ont été développés, déployés dans bien d'autres réécritures que la mienne. Mais voilà, moi, en rencontrant cette histoire d'Hélène d'Astola, je me suis posé la question de comment la regarder avec mes yeux de... c'est quand j'étais encore une jeune fille, donc dans les années... fin des années 2010. Et en fait, j'ai fait une réécriture critique qui est féministe dans le sens où j'épouse le point de vue d'Hélène d'Astola. Et je creuse son parcours pour questionner ce que c'est qu'une initiation amoureuse et un chagrin d'amour. Et effectivement, l'histoire ouvre sur la question de la sororité, puisqu'à la fin de l'histoire, elle est entourée d'autres femmes.
Qu'est-ce que cela implique pour vous, ce terme de réécriture? Quelle distance avez-vous avec l'histoire originelle et votre part de créativité?
Alors, à l'origine, je suis fan de littérature médiévale. C'est-à-dire que les récits arthuriens, c'est vraiment quelque chose qui m'a nourrie, que j'ai vraiment aimé lire, découvrir. Et encore aujourd'hui, tout ce qui est légendaire, merveilleux, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Donc le premier rapport, c'est de l'amour et des récits qui m'aident à connaître le monde. Mais voilà, avec cette envie de réécrire pour m'approprier et pour se questionner sur comment aujourd'hui on peut s'emparer de cette matière-là et continuer à la faire exister avec un éclairage contemporain. Et donc là, de nos jours, on se questionne sur quelle est la place des femmes dans les œuvres de fiction et comment on peut avoir une approche féministe du texte. Donc voilà, moi j'ai fait un travail de réécriture avec cet angle de vue là, et ensuite dans le style, le récit est écrit en utilisant un récit allégorique, c'est un genre médiéval, et puis c'est une réécriture textile aussi, puisqu'il y a ces deux grandes broderies qui ont impliqué 80 volontaires. Ouais.
Vous disiez donc être fan de littérature médiévale, alors pourquoi avoir choisi la légende d'Hélène d'Astola en particulier? Est-ce que vous êtes tombé dessus juste à partir de votre appétit pour la littérature médiévale, ou est-ce que c'est une légende que vous connaissiez depuis longtemps et que... Enfin, dans lequel vous avez tout de suite vu un potentiel scénique?
Alors en fait, j'ai d'abord découvert un tableau de la légende en Angleterre. Un tableau de John William Waterhouse qui représente Hélène au moment de son agonie. Et c'est un tableau auquel je me suis identifiée et qui faisait écho au roman que j'avais lu par ailleurs. Mais j'ai d'abord découvert cette image et ensuite je suis allée voir les textes, et puis j'avais le poster chez moi, et puis en fait au fil du temps j'ai acheté à 14 ans, et puis j'ai eu 18 ans, j'ai eu 20 ans et le poster était toujours chez moi. Puis quand je suis arrivée à 24 ans, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette image, pourquoi j'ai autant été dans l'identification avec cette image de jeune fille en train d'agoniser, qu'est-ce qui se passe, et comment on peut tout en gardant ce thème du chagrin d'amour essayer de donner un destin à cette héroïne, quoi. Femme witch, you're just evil.
Think it over, think it over. Pour revenir à la broderie en tant que support, comment s'est organisée la réalisation, dans quelle ambiance?
Eh bien, en fait, on a lancé donc la création des broderies. Donc ça commence par pour celle, la broderie de la conquête, donc c'est Pierre Massé qui a fait le dessin. Une fois qu'on a un modèle, on réunit des brodeuses en atelier, donc c'est souvent associé à des temps de représentation du spectacle. Dans les théâtres où on joue, on crée un groupe de brodeuses, et donc c'est le premier enjeu, c'est la transmission du savoir-faire. Donc c'est-à-dire proposer à des personnes qui savent pas forcément broder d'aller à la rencontre de la technique, et puis aussi de travailler sur la question de la réécriture, de montrer comment cette histoire se réécrit à travers la broderie aussi.
Comment fait-on du coup, même si c'est à partir d'un dessin, pour avoir une cohérence esthétique lorsqu'on travaille à deux fois 90
C'est une très bonne question. C'est vrai que ça demande de la rigueur et de tenir le modèle, et puis de l'anticipation aussi, c'est-à-dire que on choisit les laines en amont, on propose des points, il y a une petite marge de manœuvre, mais on la discute ensemble. Donc ça demande du suivi, de la relation avec les personnes qui sont avec nous, d'imaginer les choses ensemble pour chercher cette cohérence-là, quoi. Alors, la broderie, c'est un triptyque, donc elle est en trois parties, et c'est une grande carte géographique. C'est la carte géographique de Hélène, du parcours d'Hélène. Donc, la partie centrale, c'est un monde souterrain, c'est la carte d'un monde souterrain dans laquelle il y a une grande forêt qui s'appelle la forêt de longue attente, qui est toute verte. Et il y a en dessous une mer souterraine qui est la mer de la passion.
Cette broderie sert de support à donc un spectacle qui s'intitule Vierge maudite. Oui. Pouvez-vous nous en dire un mot plus précisément, le présenter et parler des dates à venir? Ouais.
Alors, dans Vierge maudite, donc, je raconte l'histoire avec les broderies à l'appui et un chœur de brodeuses qui m'entoure et qui prend la parole pour raconter la fin de l'histoire. Et donc, on va le rejouer en mars à Ploufragan et à Cadun.
Quels publics sont concernés par cette exposition? Est-ce que c'est uniquement réservé aux adultes ou est-ce que c'est accessible pour un plus jeune public?
Alors, on le joue devant des collégiennes et collégiens et des adultes, à partir de 8 ans.
Moi, c'est Céline. Je suis brodeuse et j'ai participé au projet de la broderie de la conquête.
Oui, et moi c'est Sophie et j'ai aussi participé aux ateliers d'Inès sur la commune du Reuf.
Comment avez-vous été sollicitée par Inès et contactée pour participer à son projet?
Alors, c'est le centre culturel Agora à l'Heureux qui a proposé des ateliers de broderie participative et voilà, je me suis inscrite et on s'est retrouvés à plusieurs.
Et donc, est-ce que je peux vous demander comment s'est passée la collaboration à plusieurs mains et comment s'est passée la collaboration avec Inès Cassignol en particulier?
Alors, avec Inès, c'était très, très fluide. Elle nous a tout de suite fait partager son amour de la broderie et elle nous a très, très vite raconté son projet qu'on a trouvé très, très, très sympa. Et donc, on se retrouvait régulièrement, une fois par mois, pour broder ensemble. On avait chacune nos petits carrés de broderie qui ont été assemblés pour donner le résultat qui est aujourd'hui à l'expo. Et on brodait aussi chacune chez nous. On mettait ça on remettait ça ensemble à chaque atelier, tous les mois.
Donc dans la version que j'ai écrite, elle part à la conquête d'un chevalier sans visage et sans nom. Et elle rentre dans un monde souterrain qui est dessiné dans la partie centrale de la broderie. Et ce monde souterrain, c'est une géographie sentimentale. Elle traverse par exemple la forêt de longue attente. Elle se perd dans le labyrinthe du terrible manque. Voilà. Donc elle va découvrir les sentiments et elle est guidée par une chevaleresse qui s'appelle Désir. Et quand elle arrive sur cette petite île qui est l'île de Mignon, là elle se retrouve enfermée et on se rend compte que c'est un piège, que cette carte est un piège et qu'elle arrive dans un tombeau où sont arrivées avant elle des centaines et des milliers de vierges qui sont mortes au même endroit. Stop the crocodile tears, more than just a pair of tits.
Et après le reportage réalisé par Emma et accompagné du choix musical d'Inès Cassignol, c'est le titre Crocodile Tears de la musicienne et chanteuse Norma, on va à présent retrouver l'association La Cimade qui est de retour en studio pour de nouvelles chroniques de rétention. Bonjour Colline.
Bonjour.
Colline, intervenante juridique au CRA, le centre de rétention administrative de Rennes pour La Cimade, cette association de soutien aux personnes exilées. On vous reçoit régulièrement, ou on essaye en tout cas, pour vous donner un espace de parole, histoire de donner à entendre ce qui se passe entre les murs de ce centre de rétention administrative. Aujourd'hui, chronique.
En France, cela fait longtemps que les gouvernements se suivent et malheureusement se ressemblent. Ils affichent de manière continue une obsession pour l'immigration, alimentée également par certains médias. En tant qu'intervenante juridique en rétention, nous ne ménageons pas nos efforts pour essayer de faire entendre et faire connaître ce qu'il se passe dans les centres de rétention, où des personnes sont retenues dans des conditions indignes, telles que nous le faisons depuis plusieurs années maintenant sur Canal B. Fait plutôt rare, depuis quelques semaines, la place de la rétention dans le discours public et médiatique a pris une ampleur inédite. À la télé, des images circulent de ces lieux d'enfermement, pourtant volontairement dissimulés par les autorités au grand public. Des parlementaires, des sénateurs et sénatrices, des journalistes exercent un droit de visite afin de se rendre compte de la réalité de l'enfermement des personnes étrangères. Pourtant, ces images sont bien trop souvent utilisées à contresens de ce qu'on pourrait souhaiter, et ainsi instrumentalisées pour déshumaniser les personnes enfermées et justifier de la continuité de l'existence de ces lieux. Bruno Retailleau, issu de la droite radicale, pour ne pas dire extrême droite, fraîchement élu ministre de l'Intérieur, se fait le chantre de l'expulsion et de l'enfermement des personnes étrangères au nom de la protection des Françaises et des Français. Ce discours dangereux, teinté de xénophobie et de racisme, ne peut avoir que des conséquences néfastes. En le nommant ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron ne pouvait ignorer les opinions de cet homme qui déjà en 1997 affirmait que l'immigration était une menace et qui remet en cause l'état de droit, ni sacré ni intangible selon lui, une semaine seulement après sa nomination. Le 29 octobre dernier, 4 personnes décédaient dans la Manche en tentant de rallier les côtes anglaises. Et Bruno Retailleau présentait cela comme une conséquence néfaste de sa politique efficace menée à la frontière. Dès le lendemain, dans une circulaire destinée aux préfètes et aux préfets, il demandait de favoriser la reprise du contrôle de notre immigration. Ce nouveau ministre de l'Intérieur nous fait également grâce, depuis son entrée en fonction, d'un calendrier de l'Avent, de projets de loi et autres annonces fracassantes. Augmentation de la durée en rétention de 90 à 210 jours, projet de révision de la circulaire Valls, nouvelle loi promise en 2025 avec les dispositions précédemment retoquées par le Conseil constitutionnel, recours à des pays de transit pour renvoyer des personnes impossibles à expulser dans leur pays d'origine, etc. etc. La parole n'est bien sûr jamais donnée aux personnes migrantes elles-mêmes, à leurs difficultés, leur courage, leur résilience. Même dans les images télévisées et les mots des journalistes, les personnes enfermées en centre de rétention ne sont que peu humanisées. Ce contexte politique reflète un durcissement des conditions d'enfermement en centre de rétention. À Rennes, les travaux, toujours en cours, visent à transformer le centre de rétention sur le modèle des CRA 2.0, tel que celui de Lyon, dont les conditions d'enfermement ont été dénoncées comme intolérables et inhumaines. Il y a peu encore, le barreau de Lyon et sa bâtonnière demandaient sa fermeture de toute urgence. Derrière les hauts murs du centre de rétention administratif de Saint-Jacques-de-la-Lande, depuis des mois, de nouveaux grillages sont érigés afin de restreindre encore plus la liberté de circulation. Les personnes sont enfermées quasiment en continu à 10, dans un bâtiment avec seulement une toute petite cour extérieure accessible. La possibilité d'accéder à nos bureaux ou au service médical est dépendant du bon vouloir des agents de police. La visio-audience, symptomatique d'une justice déshumanisante, expéditive et dégradée, est de plus en plus utilisée. La nouvelle loi du 26 janvier 2024, qui instrumentalise la notion de menace à l'ordre public, a comme conséquence d'allonger la durée moyenne d'enfermement. Ainsi, de plus en plus de personnes atteignent le maximum de la durée d'enfermement, soit 90 jours, ce qui a de graves conséquences sur leur santé. Une personne au CRA de Rennes a ainsi perdu 8 kilos en 3 mois. Le 18 octobre 2024, une personne est décédée au centre de rétention du Mesnil-Amelot en région parisienne. Le 8 novembre dernier, une personne retenue au CRA de Marseille s'est donnée la mort. Dans ce contexte de stigmatisation des personnes étrangères et d'instrumentalisation de la rétention, la réalité de l'enfermement administratif se rappelle à nous. La rétention tue. Pendant les différents débats politiques et prises de parole autour des CRA, ni le Premier ministre, ni le ministre de l'Intérieur n'ont eu de mots pour ces deux personnes. Aujourd'hui, plus que jamais, la liberté d'expression et de communication autour de la violence des centres de rétention doit être défendue. L'indépendance des associations intervenant en rétention est une condition indispensable de l'exercice des missions d'accès aux droits des personnes retenues et la dénonciation de leurs conditions d'enfermement. Le gouvernement cherche à brider cette liberté de communication et cette indépendance, notamment en souhaitant remplacer les associations intervenant en rétention par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La CIMAD se doit plus que jamais de faire entendre la voix des personnes retenues et sa propre voix. Dans ce contexte, la CIMAD réaffirme sa position sur la fermeture de tous les centres et locaux de rétention administrative et appelle à un changement de paradigme des politiques migratoires garantissant le respect des droits et libertés fondamentales.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.